Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, et bien oui, même le 29 décembre, c'est un samedi, donc c'est Mediapolis avec un invité exceptionnel pour cette émission réalisée par Jean-Luc Arblat et préparée par Paul Le Seine, comme d'habitude. Mais un quel invité ! L'inventeur, allez, le co-inventeur de Mediapolis, lui-même, Michel Field, qui revient pour débattre avec moi sur la médiapolitique à l'ère des réseaux sociaux et des chaînes info.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, alors donc exceptionnellement pas de Canteloup pour cette émission qui d'ailleurs a été enregistrée avant Noël, et en revanche des sujets très très riches. Et pour commencer, le premier d'entre eux, les réseaux sociaux, les vices et vertus des réseaux sociaux. Écoutez, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Non, Jean-Luc Arblat n'est pas encore ministre de l'Éducation.
Jean-Michel Blanquer, sur RTL, c'était le 12 décembre dernier.
Chaque fois qu'il se passe des choses ignobles, il y a de l'ignoble qui vient de se rajouter à l'ignoble. Et là, c'est un exemple. C'est-à-dire, vous savez, je pense que la pudeur, la mesure, ce sont des qualités qu'on devrait développer un peu plus aujourd'hui. Et puis quand on ne sait pas, on ne parle pas, tout simplement. C'est un peu la facilité de notre époque. Et ça pose vraiment beaucoup de questions sur les aspects négatifs des réseaux sociaux, même s'ils ont aussi des aspects positifs.
Alors là, c'était justement au lendemain de l'attentat à Strasbourg, où un certain nombre de réseaux sociaux mettaient en doute la réalité de cet attentat, ou plus exactement le fait qu'il aurait pu être téléguidé, commandé par le pouvoir en place pour nuire aux gilets jaunes. Puisqu'on entend tout, on lit tout, on voit tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Je dirais que, Michel Field, bon, il y a un lieu commun qui est peut-être exact, qui est la fin du propos de Jean-Michel Blanquer, qui est il y a le meilleur, il y a le pire. Et puis il y a ceux qui disent que c'est une catastrophe pour la vie démocratique, et puis il y a ceux qui disent enfin ça permet à chacun de s'exprimer sans les filtres, les blocages divers et variés des élites. Est-ce que vous avez une ligne préférentielle entre ces trois options?
J'allais dire ça dépend des moments, mais ça dépend de sur quel tweet ou sur quel réseau social on tombe. Moi, enfin, c'est très difficile d'éviter les banalités d'usage. C'est vrai qu'il y a le meilleur et le pire. C'est vrai aussi que, je crois que c'était Umberto Eco, peu de temps avant sa mort, qui disait, alors c'était moins sur les réseaux sociaux que sur les chaînes info, mais que, en gros, les imbéciles au comptoir qui refaisaient le monde et qui pouvaient se livrer à des insanités avaient d'un seul coup une audience absolument faramineuse, alors qu'autrefois c'était contenu dans le cadre du bistrot où ils étaient. C'est une chose. En même temps, moi, je trouve quand même que s'il fallait choisir entre le plus et le moins, c'est le plus qui l'emporterait. Parce que c'est évidemment que ça charrie tout ce qu'on veut de racisme, d'homophobie, de révisionnisme, de complotisme. Mais de toute façon, ça infuse dans la société ces discours. Donc le fait qu'ils ressurgissent et qu'ils soient en quelque sorte visibles n'est pas plus grave que le fait qu'ils travaillent de façon souterraine.
C'est à la théorie, en quelque sorte, il ne faut pas incriminer le thermomètre quand
oui,
le malade
non, mais
a
c'est
la fièvre.
C'est un peu ça. Y a pas, et ces propos ne sont pas plus graves d'être rendus publics que d'être souterrainement efficaces.
Alors attendez.
Oui. Ça me fait penser beaucoup, si vous voulez, aux libelles du Palais Royal avant la Révolution. Évidemment, on a glorifié ça par rapport aux Lumières, mais quand on analyse un peu, je me souviens des travaux notamment d'Arlette Farge, etc., on voyait aussi que dans les condamnations... Alors d'abord, il y avait beaucoup d'humour et d'ironie, ce qu'on trouve quand même dans les réseaux sociaux. Il y a vraiment un côté chansonnier au bon sens du terme. Et puis après, il y avait des infamies, des attaques
entendu,
sur Marie-Antoinette, d'homophobie...
Michel, si vous envisagez que je puisse de temps en temps dire un mot,
ah là là,
vous prévenez.
C'est douloureux, hein, mais allez-y.
On sent que Mediapolis vous manque tellement que vous voulez faire l'émission à vous seul. Non, d'accord pour cette critique-là, mais une autre en tout cas, qui consiste à souligner que ça enferme les gens dans la communauté de ceux qui pensent comme eux, et que donc ça empêche en quelque sorte de, j'aime pas cette expression faire nation, mais en tout cas ça empêche d'avoir une communauté la plus large des citoyens qui échangent entre eux, parce que finalement on n'échange qu'avec ceux qui pensent comme nous.
Mais oui, mais est-ce que c'est si différent comment dire, des communautés qui existaient quand on était un lecteur assidu et exclusif de l'Humanité ou de l'Aurore, etc. C'est, moi, j'ai l'impression que ça radicalise un peu ces appartenances. Et en effet, il y a le côté niche, il y a le côté identité communautaire. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas plus grave, enfin plus grave ou plus souligné qu'avant. Je pense qu'il y a un effet de perspective et que c'est plutôt la force de cette technologie qui rend les choses spectaculaires.
Et d'accord, mais quand même, le fait que c'est une arme nouvelle, y compris entre les mains des pires. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une vraie question qui est le triomphe sur les réseaux sociaux d'un certain nombre de prédicateurs islamo-terroristes, islamistes radicaux, et que donc sans les réseaux sociaux, jamais ils n'auraient une telle portée, jamais ils n'auraient... Vous pouvez me dire, ça existera tous les temps, justement, ça n'existait pas. Ça n'existe pas de tous les temps, de donner à n'importe quel extrémiste, limite terroriste, voire terroriste, avant qu'il soit éventuellement contrôlé, une portée à sa parole qui n'existait pas.
Il y a quelqu'un, j'entends hein, votre argument, il y a quelqu'un, enfin il y a quelques-uns, il y en a deux, Deleuze et Guattari qui ont, il y a bien longtemps, écrit un livre de philosophie politique remarquable qui s'appelait « Mille plateaux ». Et ils analysaient déjà ce qui était la déterritorialisation, c'est-à-dire cette manière dont à un moment donné, alors pour le meilleur et pour le pire, parce que c'était aussi ça pouvait être un idéal de radicalité, il y avait quelque chose qui échappait à l'assignation au territoire et à l'assignation au lieu, à la fois géographique et puis au lieu de pensée. Je pense que les réseaux sociaux ont en quelque sorte concrétisé cette intuition philosophique de Deleuze. On est dans la déterritorialisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en effet, les messages n'ont plus besoin d'un ancrage géographique. D'ailleurs, on va en parler, mais l'aspiration à l'horizontalité, elle existait avant quand elle était... assigné à un lieu, souvenez-vous de la révolte de Lippe, l'autogestion, le Larzac, c'était déjà des revendications d'autogestion, d'horizontalité. Mais on était obligé de le faire dans le cadre géographique qui était le sien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de s'émanciper de ce cadre-là. Mais la logique, je pense, reste la même et n'est pas, me semble-t-il, plus grave.
D'accord, donc décidément vous êtes un fanat des réseaux sociaux. Vous êtes sur Twitter ?
Je suis sur Twitter.
Facebook ?
À moitié.
Instagram ?
Oui.
Ah bon, bah vous êtes en plus un activiste.
Non, parce que j'y suis beaucoup pour observer, j'y suis beaucoup pour lire. Par exemple, Twitter, pour moi, quand il se passe quelque chose, les dessins, les commentaires, les coup de génie qui te résume l'actualité en un trait, ça, là pour le coup, je repense aux libelles du Palais Royal et je me dis, voilà, c'est un thermomètre assez formidable. Je suis moins sensible que d'autres à toutes les ignominies que je peux lire parce que, encore une fois, je trouve que le fait que, vous savez, cette phrase de Marx, rendre la honte plus honteuse encore en la rendant publique. Ben voilà, c'est peut-être ça, Twitter.
Michel Field, praticien des réseaux sociaux, Michel Field, responsable de la culture à France Télévisions, Michel Field, co-inventeur de Mediapolis, Michel Field qui a longtemps été extrêmement actif sur la chaîne Info, LCI, Michel Field, c'est tout. Et Michel Field, on le retrouve pour la grande question du rôle des chaînes Info dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui reçoit aujourd'hui l'écrivain et chargé de mission culturelle pour France Télévisions, Michel Field.
Michel Field, vous avez été un des principaux visages et une des principales voix de LCI pendant une dizaine d'années avant de rejoindre France Télévisions. Donc vous avez vécu la croissance des chaînes info. Et puis ensuite, quand vous êtes passé à France Télévisions, vous avez été un temps assez court, mais un temps quand même, directeur de l'information de France Télévisions, de France 2, de France Télévisions.
France Télévisions,
de France
oui.
Télévisions. Pour vous, il y a une très grande différence dans le mode de fonctionnement d'une chaîne info et grande chaîne du service public ?
Alors, Pas tellement LCI, parce que j'ai toujours pensé que LCI était des chaînes info, celles qui donnaient le plus le primat à une forme de réflexion, d'expertise. Et de ce point de vue-là, c'est, je trouve, presque une chaîne de service public. Et d'ailleurs, quand j'ai participé à la fondation de France Info, donc le média global à la fois télé, radio et site internet, c'est vrai que les arguments de déshystériser l'information, c'était plus le contre-modèle, était plus BFM à l'époque, même si BFM a aussi modifié pas mal sa ligne, c'était l'idée comment résister à l'hystérisation. Il faut voir les choses comme une sorte de processus d'accélération à chaque nouveau média. La radio est venue perturber le rythme de la presse écrite. Puis les chaînes infos sont venues perturber le rythme de la télé. Puis Internet est venu perturber le rythme des chaînes infos et les réseaux sociaux sont venus perturber Internet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a gravi un échelon de plus dans l'immédiateté, dans la demande de réactivité immédiate. Et quand on est, par exemple, à la tête d'une rédaction ou d'un service info, c'est extrêmement compliqué de faire la part des choses.
Si vous permettez, l'immédiateté va de pair, ce qui pourrait paraître contradictoire, avec la répétition. Ce qui me frappe énormément. Quand on décide qu'un événement devient un événement prédominant, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, pendant 3 semaines, le Brexit et comment le gouvernement britannique s'enfonce, ça n'existe plus. L'accord de cessez-le-feu au Yémen et les espoirs qu'il porte, ça n'existe plus. Et encore, je prends ces exemples-là, je pourrais en prendre 10, 15, 20. Il n'y a plus que gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune. Et donc, il y a quand même une forme de simplification, de réduction et de caricature dans l'information dont on peut penser que ce n'est pas forcément un progrès.
Ça, je vous l'accorde absolument. Et pour avoir beaucoup regardé les chaînes info pendant la période des gilets jaunes, c'est vrai à la fois qu'on a quand même... certains plateaux ont été remplis de gens dont on savait très bien que les journalistes les avaient pris un peu au hasard, sans enquête préalable, etc. Ce qui fait qu'on a quand même entendu des gens d'abord très, très lourdement suspects d'un point de vue idéologique, etc. et qui se camouflaient derrière précisément leur gilet jaune. Beaucoup d'approximations, beaucoup de n'importe quoi.
Il y en a un qui a osé me dire en direct à LCI, parce que j'étais pas d'accord avec lui, que s'il y avait des morts à Paris le 17 novembre, ce serait de ma faute.
Alors, on est d'accord, il y a ça, il y a évidemment ce qu'à France Info, on avait vraiment essayé de conjurer dès l'origine, à savoir la boucle perpétuelle qui fait que vous avez une même image qui... passant inlassablement, vous donne l'impression, et Dieu sait que ça a été le cas sur certaines manifestations, par exemple que Paris était à feu et à sang. Enfin, le week-end de décembre...
Oui, d'ailleurs, moi, c'était pas le 17 novembre, mais le 8 décembre.
C'était
oui.
Absolument assez invraisemblable quand il y a eu l'acte 4, comme disent les Gilets jaunes. Il y avait quand même à peine quelques milliers de manifestations dans Paris, à peine.
Mais
jamais il
n'y
a eu un écho à ce point
entendons
délirant.
Bien, Michel Fitch, je pense que si vous aviez été patron de LCI ou si j'avais été patron de LCI, on aurait fait la même chose.
Ah, mais on aurait fait...
C'est le système, c'est pas les personnes qui sont...
On est tout à fait
ça
d'accord.
Ça fait de l'audimat. Les gens se passionnent pour ça, je fais tourner ça en boucle.
C'est pas seulement ça, c'est que quand vous êtes à la responsabilité et que vous dites par exemple, on va pas breaker. Un breaker, c'est couper l'antenne pour un événement, mais quelquefois pour un non-événement.
Breaking news,
mais
nouvelle qui casse.
Si vous ne cassez pas votre antenne, on va vous le reprocher. Au début de France Info, c'est ce qu'on a fait. On a tellement voulu tordre le modèle qu'on critiquait de chaîne info hystérisant, mais qu'à un moment donné, on se retrouvait à diffuser des modules qui n'avaient rien à voir avec l'actualité et on avait l'air totalement hors sol.
Et vous aviez une audience dérisoire.
Et on a, enfin, les équipes qui ont suivi ont rectifié le tir et aujourd'hui, c'est vrai que je trouve là pour le coup que l'information du service public se distingue des autres parce que aussi bien dans les grands journaux, le 20h par exemple, il y a vraiment la volonté de décryptage, d'analyse, de recul vis-à-vis de l'événement et sur France Info, on tient les copains tiennent le curseur entre traiter de l'information, parce qu'à un moment donné, quand vous rentrez chez vous, qu'il se passe un truc, vous allez sur une chaîne info, si elle n'est pas en contact avec cet événement, vous allez sur une autre. Et en même temps, une sorte, encore une fois, le pari de déshystériser l'info est plutôt pas mal tenu sur France Info.
Oui, il est
plutôt
pas mal
très
tenu
bien
sur
tenu
France
même.
Info, qui est donc la dernière en termes d'écoute de toutes les chaînes info d'ailleurs.
Oui, mais parce qu'elle a 2 ans, et puis parce que je vais vous dire aussi, son poids n'est pas lié seulement à la télé, il est beaucoup lié au site d'information qui est devenu le premier site de France en moins de 2 ans, et la perspective du média global, à savoir un site, une télé et une radio concurrente d'ici, France Info, ça c'était quelque chose de très prémonitoire, et c'est Delphine Ernotte qui, dès qu'elle est arrivée à France Télévisions, a voulu ça. On l'a lancé dans une sorte d'incrédulité, de ricanement général, et aujourd'hui on reconsidère un peu les choses, Dieu merci.
C'est une grande mode de c'est un grand mode de consolation. Le succès des podcasts quand on a des audiences faibles, je suis au courant. Alors, on se retrouve dans quelques instants.
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.
De 10h à 11h dans Mediapolis, vous êtes avec Olivier Duhamel et Michel Field, écrivain et chargé de mission culturelle pour France Télévisions.
Alors, il y a un autre aspect critique des chaînes info qui est sur l'immense sujet du procès médiatique qui précède le procès judiciaire. Écoutez Éric Dupond-Moretti.
On invite une présidente de cour d'assises à la retraite, un flic à la retraite, des avocats qui n'ont rien d'autre à faire que de parler de dossiers qu'ils ne connaissent pas, un psychiatre qui n'a pas examiné le mis en examen, et puis on fait le procès. On donne envie, au fond, aux téléspectateurs de participer de cette façon à l'œuvre de justice, alors qu'il n'y a pas de véritable contradictoire, alors que le temps judiciaire et le temps médiatique, c'est pas du tout les mêmes.
C'était donc Éric Dupond-Moretti le 5 novembre sur BFM TV. Il y a quand même quelque chose de profondément vrai dans cette critique acerbe.
Ah mais il n'y a rien à redire, et Dupond-Moretti est évidemment un analyste extrêmement fin, et que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, parce que évidemment, même si on fait ce constat-là, je dois l'honnêteté de dire que voilà, moi j'ai pendant des années monté des plateaux qui pouvaient ressortir de cette critique.
C'est sans espoir, ou est-ce que, par exemple, comme il existe des droits de défense, des droits de la défense judiciaire, des droits de la défense au procès, on pourrait inventer des droits de la défense médiatique un peu plus solides que ceux qui existent aujourd'hui et qui se limitent à droit de réponse ou poursuivre en justice pour injure ou diffamation ?
Honnêtement, je ne crois pas. Je pense que la presse, dans son souci d'investigation, est devenue facilement accusatrice. Et que
ça ne vous gêne pas ?
Si, ça me gêne, mais c'est extrêmement difficile de faire le départage entre le souci de savoir plus, de savoir ce qui se cache, de révéler, ce qui est quand même le geste journalistique lui-même, et comment l'investigation peut ne pas être accusatrice. C'est très complexe.
Mais c'est quand même un problème considérable pour la civilisation, de penser que si vous êtes poursuivi en justice, vous avez le droit à un avocat, d'ailleurs maintenant dès la garde à vue, vous avez le droit à un certain nombre de choses pendant l'instruction, vous avez le droit de faire appel contre les décisions qui sont prises, de vous mettre en détention. Au cours du procès, vous avez évidemment droit à l'avocat, vous êtes présumé innocent, etc., etc., et que dans l'espace médiatique, rien.
On est d'accord. Moi, j'ai toujours été gêné, ça a été d'ailleurs l'objet de quelques polémiques, par le côté inquisitorial de ce qui était devenu aujourd'hui, j'allais dire, la doxa journalistique. Mais en même temps, encore une fois, c'est à la confluence de beaucoup de choses, c'est à la confluence d'un vrai besoin citoyen d'en savoir plus, de transparence, de se heurter aussi aux stratégies de communication, aussi bien des politiques, des industriels, etc. Donc là, pour le coup, la presse est un élément essentiel au fonctionnement démocratique. Et puis à un moment donné, en effet, c'est le procès hâtif, c'est la mise en cause, c'est l'absence en fait de pédagogie de la complexité qui me gêne. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce métier que j'ai fait depuis près de 30 ans maintenant, parce que j'y voyais une manière de sensibiliser l'auditeur, le téléspectateur à la complexité des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance journalistique qui va plutôt à la simplification inquisitoriale. Oui. Et c'est en effet, enfin, dans la critique de Dupond-Moretti, il y a tout à retenir.
Et par ailleurs, sur un sujet peut-être plus frivole, en toute matière, on va à la simplification. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron en octobre 2018 à Time Magazine.
I don't tweet myself. Je ne tweete pas moi-même. Je ne follow pas moi-même parce que ce n'est pas compatible avec la distance nécessaire quand on gouverne et qu'on préside un pays. Je pense que quand vous êtes dans la situation de décider vous-même et quand vous avez la responsabilité de plusieurs politiques publiques et de beaucoup de gens, vous ne pouvez pas réagir constamment sur ce genre de médias ou même sur n'importe quel média. Il faut du temps, de la distance, il faut même organiser la vérification de l'information, recouper l'information et réfléchir à ce à quoi vous devez réagir ou pas quelquefois. C'est pour ça que Twitter n'est pas toujours adapté à ce genre de travail. C'est bien pour la vie privée, mais le problème, c'est que vous n'avez plus de vie privée quand vous êtes président. Et pas de réaction privée. Votre réaction est la réaction du président.
C'était Emmanuel Macron et la voix de Paul Lacet pour la traduction. Et évidemment, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est évidemment pas 2018, mais octobre 2017. Parce que Dieu sait qui tweet. Donc même le président de la République, qui avait dit « je ne tweeterai jamais », eh bien, il s'est fait prendre par le système, comme quoi, à un moment donné, tout ce nouveau système d'information organisé par l'articulation complexe entre les réseaux sociaux, les chaînes info, les sondages, et ce qui reste de l'ancien espace médiatique, la presse, la télévision, la radio, tout ça nous met dans un monde nouveau. On y revient dans quelques instants.
Olivier Duhamel fait le bilan de cette année dans Mediapolis avec Michel Field.
Alors, pour essayer de résumer quelque chose de symbolique ô combien de la nouvelle média politique, je prends le mouvement des Gilets jaunes. Condition numéro 1, ce sont par les réseaux sociaux qu'un grand nombre de micro-révoltes locales se sont... D'abord que les appels sont nés et qu'ensuite le mouvement s'est mis comme plein de petites taches jaunes à exister, ce qui aurait été impossible sans les réseaux sociaux. C'est par les réseaux sociaux que les gens se sont mobilisés. Autrefois, il fallait la force de frappe d'un parti, d'un syndicat, il fallait de l'argent, il fallait des militants encartés, il fallait des responsables qui appelaient à manifester, il fallait tracter longtemps avant, etc. Alors que là, tchouc, vous pouvez mettre le feu à la plaine, juste au début, par les réseaux sociaux. Ensuite, ce mouvement, supposons qu'il ait été l'objet de mobilisation de 500 000 personnes. On sait que c'est moins, supposons 500 000. Vous voyez, je ne chipote pas sur les chiffres. Il est immédiatement, enfin très vite, relayé massivement par les chaînes info. Parce que le coup du gilet jaune, c'est un coup de com' absolument génial. Le type qui a inventé ça, il faut qu'il crée son agence de pub, parce que c'est vraiment un truc exceptionnel. Et les chaînes info en font immédiatement un feuilleton avec une assez large adhésion implicite dans les commentaires. Et il faut trois, les sondages, et une lecture approximative, simpliste et répétitive des sondages. Par exemple, il y a un institut qui distinguait soutien et sympathie, et à ce moment-là, soutien, c'était plus que 50 ou 40%. Mais tous les autres qui ne soutenaient pas, qui ne distinguaient pas, comme il était très difficile de trouver antipathique des gens qui expliquent qu'ils n'arrivent pas à finir le mois, ça donnait un chiffre répété, 70-75% de la population le soutient. Les sondages. Et enfin, bon, le quatrième élément, lui, qui n'est pas nouveau dans les révoltes, c'était la violence. Mais les trois premiers éléments sont trois éléments qui n'existaient pas, disons, il y a 60 ans comme ça pour les sondages et il y a 20 ans pour les deux autres.
Tout à fait juste. En même temps, il y a toujours la force du symbole. Moi, j'ai discuté avec un grand patron publicitaire qui me disait ça, qui me disait qu'il aurait dépensé un fric fou pour trouver le concept de gilet jaune. Parce qu'il y a quelque chose dans la simplicité de ça. Le gilet jaune, tout le monde en a, automobiliste, mais aussi cycliste, etc. Et l'objet symbolique est au plus près de ce qu'est la revendication, c'est-à-dire rendre visibles les invisibles. Et cette adéquation entre le symbole et le mouvement a rarement été à ce point parfaite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que les gilets jaunes, c'est la réplique au sens sismique du terme de ce que Macron a fait en politique. La réplique sociale de ce que Macron a fait en politique. Pour moi, les gilets jaunes, c'est le macronisme des pauvres. Non pas le macronisme du pauvre, mais le macronisme des pauvres. C'est-à-dire, là où le président a totalement dynamité le système politique vermoulu, avec et de droite et de gauche, et en même temps, etc., les gilets jaunes ont opéré la même chose avec un temps de retard sur le plan social. C'est-à-dire, quid des représentants et des médiations syndicales habituelles, des circuits habituels de mobilisation ? L'idée même du rond-point est macronienne, quand on y réfléchit. C'est quand même un rond-point, c'est le lieu où il n'y a plus de droite ni de gauche.
Bon, ça fait une belle analyse, mais je voudrais vous poser la question autrement. On n'arrive pas, un pouvoir politique national n'arrive pas, ou presque pas, à imposer, par exemple, l'irrespect de la limite de 3% déficit public. Bon, parce que c'est la règle européenne et qu'il faut la respecter. Mais en revanche, un mouvement de quelques centaines de milliers de personnes, parce qu'il a trouvé un bon truc, gilet jaune, et qu'il est relayé par des chaînes infos et une lecture sondagière rapide, s'il ajoute un peu de casse à l'Arc de Triomphe, il fait infléchir la politique du pouvoir. Est-ce que ça ne pose pas un vrai risque dans la gouvernabilité de nos sociétés, même si ce n'est pas dans le mainstream, même si ce n'est pas à la mode, même si ce n'est pas politiquement correct de poser cette question?
Non, là, je crois vraiment que si vous analysez ça comme ça, c'est que vous prenez la fièvre pour la maladie. La fièvre est le symptôme. C'est parce que le discours et le champ politique se sont totalement, séparés des préoccupations des gens, du... Enfin, regardez le peu de place que le social a eu dans la dernière campagne présidentielle. Regardez, enfin...
Et qu'il a dans les informations générales.
On ne va pas accabler ce pauvre Legendre, mais enfin, quand un éminent dirigeant de La République En Marche, alors que le président, quelques jours avant, a dit vraiment « revenons à un peu d'humilité », dit « Ah oui, ben, ce mouvement social s'explique parce qu'on a été trop intelligent ». Mais y a, excusez-moi, comme disait Coluche, il y a de quoi se la prendre et se la mordre, quoi. C'est quand même... C'est vraiment, il y a un problème d'autisme à la fois social et d'une part de la classe politique. Enfin, je pense à cette formidable enquête de Florence Aubenas dans le Monde à la mi-décembre, sur le terrain des carrefours. Ce qu'elle a vu, c'est la France qui souffre. C'est une France. Alors. Qui a toujours été instrumentalisé par le discours ou de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a jamais trouvé finalement son lieu d'expression propre qui ne soit pas récupéré. Et c'est ça qui a à un moment donné explosé. Mais j'allais dire, c'est très sain aussi que ça explose comme ça. C'est une sorte de rappel à l'ordre pour aussi bien la classe politique que la classe médiatique. Je me souviens, quand je m'occupais de l'info au service public, je disais... Une obsession, c'est rendre visibles les invisibles. On avait déjà conscience, enfin tout le monde a conscience.
On peut espérer que les leçons en soient tirées, que ça change demain. On peut espérer qu'on ait un peu plus de reportages sur la vraie vie des gens, on ait un peu plus de place donnée au social dans le commentaire politique, un peu moins au microcosme et aux intentions de vote pour la présidentielle de 2050.
J'allais dire, c'est un vaste programme, parce qu'il faudrait aussi que les rédactions soient elles-mêmes plus diversifiées socialement. Il faudrait que les écoles de journalisme de Sciences Po ne fassent pas la pluie et le beau temps.
Écoles de journalisme de Sciences Po, c'est pas la peine de balancer une pique, Michel Fil, pour vous rappeler du bon vieux temps. Vous pouvez pas être à cette émission sans m'en envoyer une, excusez-moi. D'abord, il n'y a qu'une école de journalisme à Sciences Po.
Non, et ensuite... Vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un problème, sans faire du bourdieu au petit pied, il y a un problème de non-diversité sociale dans le milieu journalistique qui fait qu'à un moment donné, cette étrangeté par rapport à des tas de phénomènes, que ce soit ce qui se passe dans les quartiers, en banlieue, dans la France périphérique...
Il y a beaucoup de journalistes qui sont dans une situation quasi de prolétariat.
Ah non, mais
hein.
ça n'empêche pas. Hein, mais ça n'empêche pas, les deux ne sont pas contradictoires.
Attendez, il faut qu'on s'y retrouve parce que là je suis perdu. Les deux ne sont pas contradictoires entre une élite sociale et des journalistes prolétarisés. Vous nous répondez dans quelques instants.
Michel Field est l'invité d'Olivier Duhamel dans Mediapolis pour revenir sur cette année 2018.
Bon, Michel Field, vous avez fait... Je dois dire, une intervention assez convaincante sur l'importance réelle de ce mouvement et que donc, par-delà la répétition, l'amplification, enfin on montrait quelque chose qu'on ne regardait pas suffisamment avant. Et quand je vous ai demandé si ça allait changer les choses pour l'avenir, vous m'avez dit pas forcément, parce qu'il y a un vrai problème d'homogénéité sociale, avez-vous dit, je crois, de ce qu'on pourrait du coup appeler la classe des journalistes, à quoi je vous objectais. Mais écoutez, il y a beaucoup de journalistes qui sont précarisés, et vous me répondez, ça n'empêche pas. Expliquez.
Bah, Vous avez raison au sens où cette disparité sociale qui fait que énormément de confrères de la profession sont en CDD, sont pigistes, sont extrêmement mal payés, tout ça rend caduque l'idée d'un parti médiatique, ou alors ce serait un parti qui vivrait une sorte de lutte de classe interne. Ce que je pense, c'est que la difficulté qu'il y a à assurer, mais même sur les visages, sur les incarnations, sur les grandes voix, aussi bien à la télévision qu'à la radio, quelque chose qui ressemble à la France d'aujourd'hui, à la fois ethniquement, à la fois socialement, est un biais qui, sans doute, est une des explications, je ne dis pas la seule, mais du traitement peut-être décalé et faussé qu'il y a de l'actualité. Je veux dire par là que quand on a, mais vraiment, c'est une réflexion générale, mais quand on a des rédactions dont la plupart des membres vivent, je ne sais pas, pour prendre une rédaction, dans Paris intramuros, rares sont ceux qui habitent la banlieue, etc. Quand vous envoyez des jeunes journalistes qui ne connaissent pas, ils vont finalement, ils traversent le périphérique dans un état d'étrangeté qui ne serait pas le même si les rédactions étaient nourries de gens qui proviennent des cités ou des quartiers populaires.
Vous avez dit qu'il n'y avait pas de parti médiatique. Et écoutez le point de vue contraire d'Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, le 4 mars sur BFM.
On est obligé de voir qu'aujourd'hui nous avons un problème avec, oui, le parti médiatique dans ce pays.
C'est quoi le parti médiatique ?
Eh bien, je vais vous le résumer. Il y a aujourd'hui dans ce pays, si vous prenez toute la presse écrite, la presse audiovisuelle, et que vous tirez le fil des organigrammes, vous le savez sans doute, vous tombez sur 9 personnes. 9 milliardaires, y compris des gens qui investissent dans la presse alors qu'elles perdent de l'argent. Par conséquent, je m'interroge, si le bénéfice n'est pas financier, pécunier, c'est bien qu'il y a sans aucun doute un bénéfice idéologique à en tirer.
Michel Field, vous êtes d'accord ?
Alors, franchement, France Insoumise comme parti de Tartuffe, j'ai rarement vu ça. Parce que la dénonciation médiatique, ça fait un moment que c'est extrêmement commode pour les hommes politiques. Ça avait commencé de façon gentille. Souvenez-vous, il y a deux ou trois présidentielles, quand Ségolène Royal était candidate à la présidentielle, et que, je me souviens, Bayrou, par exemple, se tapait Claire Chazal à chaque interview. Très vite, les politiques ont senti que c'était intéressant pour eux de taper sur les journalistes, en tout cas les journalistes connus, etc. Et puis voilà, remontons à Marché, El Kabbach et Duhamel, etc. L'autre. Mais on a rarement vu, et puis Le Pen, évidemment, mais on a rarement vu un parti ne se constituer que sur ses coups d'éclat médiatique, comme celui de Mélenchon, un homme politique avoir autant besoin des médias que Jean-Luc Mélenchon et consorts, et passer leur temps à dénoncer ce qui, en gros, assoit leur notoriété et assoit leur puissance symbolique. Et donc, je dis que dans le palmarès des Tartuffes, dans le rapport aux médias, alors, palme d'or à Jean-Luc Mélenchon et ses amis.
Et alors, je voudrais vous poser une question fort de votre expérience professionnelle. Vous avez travaillé pour un groupe qui s'appelle TF1, dont le propriétaire est privé. Et puis, vous avez travaillé, vous travaillez encore, mais maintenant sur la culture, dans un groupe France Télévisions, dont le propriétaire est l'État. Est-ce que dans les pressions, suggestions, ordres, je ne sais pas quel terme utiliser, disons pression pour prendre un terme qui couvre tout, vous en avez plus subi dans un cas que dans l'autre, où c'est à peu près équivalent, où il y en a relativement peu ou
Mais il y en a extrêmement peu dans un cas comme dans l'autre. Et on pourrait rajouter aussi les 20 ans que j'ai passé dans cette maison, dont l'actionnaire est privé également. Il y a cette ambiguïté-là. Alors évidemment, je pense que la zone grise, elle est quand il y a des nouvelles qui peuvent fâcher les intérêts économiques de l'actionnaire, du groupe Lagardère ici, de chez Bouygues.
Mais alors sur ce point-là, chacun sa conception des choses. Ça, moi, je trouve que ça relève de la politesse élémentaire. C'est-à-dire, je trouve que la seule limite qu'on peut se poser, on n'insulte pas son patron.
Non, on l'insulte pas, mais en même temps, il faut donner les nouvelles, y compris quand elles peuvent être désagréables pour le groupe pour l'action du groupe, etc. Mais vraiment, les pressions politiques. Moi j'ai vécu au poste de directeur de l'information une campagne présidentielle où quand même un système entier s'est effondré. La violence des rapports entre les politiques, vraiment les entourages de candidats et les candidats eux-mêmes, a été, je crois, inimaginable. Moi, je ne pourrais jamais raconter le contenu des coups de téléphone, des insultes que on a pu recevoir. Mais en même temps, si je prends un peu de recul et ma formation philosophique doit servir à ça, je me dis, on avait aussi des hommes politiques qui voyaient un système entier s'écrouler. C'était comme un naufrage du Titanic. Avec le recul, je peux presque ne pas leur en vouloir en me disant qu'ils avaient, consciemment ou pas, le sentiment en effet d'une fin du monde, ou en tout cas d'une fin de leur monde. Mais cela dit, les pressions en tant que telles, les pressions du pouvoir par exemple, à France Télévisions, les pressions de l'actionnaire, en tout cas LCI, quasiment pas, et quand je le dis le quasiment, c'est pour vraiment laisser la petite marge à une précaution, mais non, en fait, non. Alors, est-ce que c'est de l'autocensure? Les contempteurs pourraient nous le dire. Hein, c'est peut-être de l'autocensure intégrée.
En 12 ans de Médiapolis, j'en ai pas connu. Les seules pressions qu'on peut connaître, c'est quand on veut inviter quelqu'un et que dans la rédac, on vous dit « Ah bah non, c'est pas pour toi, c'est pour nous ». Mais évidemment, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le travail quotidien.
Oui, et puis c'est l'émulation saine d'une rédaction.
Absolument. Donc, néanmoins, une fois qu'on prend le terme...
Pas de parti médiatique, non, voilà l'idée.
Mais si on prend le terme dans un autre sens, alors admettons, si on remplace le mot « parti » par le mot « système », il y a bien un système médiatique qui a ses codes, ses règles, ses exigences, et qui fait, par exemple, que, spontanément, dans sa manière de fonctionner, s'il n'y a pas une irruption, pour y revenir un instant, comme celle des Gilets jaunes, il ne va pas regarder de ce côté-là.
Oui, ça. Non, mais c'est clair. C'est clair, et c'est clair qu'il y a, il y a dans le système. Enfin, on est bien placé ici pour le savoir. Quand on a lancé Médiapolis, vous et moi, Olivier, c'était bien parce qu'on avait ce sentiment que l'intrication de la politique et des enjeux sociétaux et du médiatique n'étaient plus deux entités différentes, mais s'interpénétraient considérablement.
On a inventé le mot médiapolitique.
Oui, mais on l'a inventé parce que la réalité était déjà en quelque sorte là, et que on l'a perçu, et ça n'a fait en effet qu'augmenter et empirer. Maintenant, ce système, il n'est pas systémique, c'est-à-dire qu'il est plein de contradictions internes, il est plein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs manières de faire de l'info en continu, il y a plusieurs manières de s'exprimer sur les réseaux sociaux, et à partir de là, je pense qu'en creusant, on retrouverait en gros les clivages de l'ancien temps et du vieux monde. C'est-à-dire la rigueur, l'information certifiée.
Alors attendez, il faut être
très courageux à la tête d'une rédaction, quand on a la pression d'un réseau social qui balance une information, et de résister à ne pas la donner tant qu'elle n'est pas totalement avérée. Mais vous donnez... avec le risque que vous courez de vous faire reprocher d'avoir été à côté de la nouvelle si elle est avérée.
Alors vous venez de commencer la réponse à la dernière question que je voulais poser dans cette émission spéciale avec Michel Field.
Ben oui, c'était plus rapide de mon temps, c'est pour ça.
Son plaisir de me contredire va jusqu'à ne pas l'empêcher un petit écart narcissique. C'est consternant, on se retrouve dans quelques instants.
Pour ce dernier samedi de 2018, Olivier Duhamel revient sur cette année passée avec Michel Field dans Médiapolis.
Reste une dernière question et pas des moindres, Michel Field. La défiance à l'égard des journalistes, elle est terrifiante. Elle est presque égale à celle que subissent les partis politiques. La défiance à l'égard des médias. Et quand vous regardez ce que les gens aiment, ce qui va leur donner confiance dans les médias, vous tombez parfois, pour ne pas dire plus, sur ce dont vous-même vous méfiez, c'est-à-dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'investigation accusatoire qui court après quelqu'un pour lui faire avouer ses turpitudes, piétine les droits de la défense, etc. Autrement dit, que faire pour retrouver de la confiance sans piétiner la déontologie élémentaire des journalistes.
bah, j'allais dire faire notre métier normalement.
Ah, ça c'est non, mais, oh, mais ça si... c'est une réponse.
Bah oui, non, mais...
oh, bah, faites de la politique, hein, présentez vos élections. Ouais, c'est bon, là, la barbe à papa.
On ne peut pas éviter d'être pris dans ce maelstrom de rapidité, d'immédiateté, pour les raisons que je disais tout à l'heure. C'est que ne pas donner une information... trop tarder à la donner, c'est se faire taper par tout un système paramédiatique qui va la donner pour vous. Et en même temps, la donner trop tôt, c'est courir le risque d'une information non validée. Moi, je sais que les consignes que je donnais, que j'avais données quand j'étais en responsabilité, étaient de dire, pour France Info, je préfère qu'on ait 5 minutes de retard et que et tant pis pour le scoop. Bon, ça, je crois que ça mature quand même et que la course au scoop, vous voyez, BFM a été désigné du doigt très longtemps comme une sorte de, voilà, de modèle critiquable.
D'anti-modèle, je dirais.
D'anti-modèle. Je veux vraiment remarquer que depuis enfin la première vague d'attentats, etc., tout le monde a maturé. Moi, je me souviens de réunions au CSA où on était tous les responsables de l'information étaient convoqués sur ce qui devait être la déontologie des chaînes, des télévisions, des radios pendant les périodes d'attentats, pendant les périodes où les forces de l'ordre interviennent, etc. Et je crois que les excès d'il y a quelques années sont aujourd'hui totalement maîtrisés par tout le monde, hein, et que pour le coup, je crois que la profession a beaucoup, beaucoup maturé. Ce qui reste, la différence, c'est en effet donner de l'analyse, donner un sens de la complexité, donner une sorte de, à la fois l'information et l'explication de son contexte, et c'est la seule façon, d'un certain point de vue, le traitement culturel. Vous savez que on a été à l'origine les organismes du service public d'un média social culturel qu'on a lancé il y a quelques semaines qui s'appelle Culture Prime et dans lequel il y a des petits modules d'information, l'information vue par la culture. Nos amis de France Culture ont fait un truc tout bête au début du mouvement des Gilets jaunes. Ils ont laissé parler l'historien des couleurs, Michel Pastoureau. Mmh. Et en quelques minutes, Michel Pastoureau a fait la généalogie de ce qu'était le jaune dans l'imaginaire.
En commençant par Judas et la couleur du manteau Judas.
Et ben, c'était formidable parce que d'un certain point de vue, c'est un traitement latéral de l'actualité, mais qui donne à réfléchir, qui donne à penser, qui
vous
donne à sourire.
Vous ne parlez pas là de niche de très très grande qualité, mais France Culture, Culture Time, vous ne parlez pas de niche pour quelques-uns ?
Ben, rien n'empêche de faire ça sur Europe 1, par exemple, en espérant que l'audience se reconquête.
Je ne pensais pas à Europe 1 et à votre humour caustique, je pensais aux grandes chaînes.
Non, je pense qu'il y a un ton. Écoutez, puisque rendons-lui hommage, le premier à avoir eu cette sorte de réflexe journalistique de dire il y a un mouvement social, il faut en faire une émission spéciale sur un plateau, c'est David Pujadas sur LCI qui a eu. Et qui a mené ce débat de façon, enfin, je veux dire, absolument incontestable, qui fait qu'à un moment donné, le média est à la fois acteur juste d'un événement social sans en être une caisse de résonance. Il y a un moment donné, faisons notre métier normalement et beaucoup de ces questionnements-là, à mon avis, ne se poseront plus.
Très élégant hommage à LCI de la part de David Pujadas de la part de Michel Field qui n'y est plus. Alors, critique de ma part qui y suis encore, mais en plus de ça, qui était tout à fait légitime, on a passé des semaines et des semaines et des semaines sans qu'il soit possible d'avoir un talk show sans un gilet jaune, et parfois le même, et parfois des gilets jaunes totalement ch'tarbes. Et ça dérangeait pas, je veux dire, totalement ch'tarbes et marginaux dans leur mouvement, quoi.
Oui, non, mais bon, après, c'est la spécificité de ce mouvement, ce serait cru à un congrès perpétuel d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire dès qu'il y avait une tête qui dépassait, fallait l'abattre tout de suite. Bon, ça, c'est d'ailleurs, je trouve, très instructif sur les impasses de ce que peut être la démocratie directe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette crise de la représentation dont on parle, qui affecte les médias, qui affecte les politiques, qui affecte les syndicats, a affecté même ce propre mouvement qui faisait que dès qu'il y avait une esquisse de représentation, elle était immédiatement cassée et déniée. Cela dit, là où on aurait tous pu être plus attentifs, c'est à ne pas donner aussi complaisamment la parole à un certain nombre de leaders autoproclamés des Gilets jaunes, dont on savait par ailleurs, par les tweets, par leurs traces sur les réseaux sociaux, qu'ils étaient complotistes, parce qu'ils étaient révisionnistes, etc. Et là, je pense que voilà, il y a encore un effort à faire pour un petit peu plus de sélectivité dans les invités.
Encore un effort à faire. Mille merci, Michel Field. C'était bonheur que de vous entendre pour terminer cette année.
Très heureux d'avoir été là.
Et
aussi.
À l'année prochaine. Pour terminer, nous écoutons une chanson de Stromae qui s'appelle Carmen et qui critique elle aussi un peu les réseaux sociaux. Merci à Stromae. Pour faire écouter cette émission en podcast, c'est très facile sur europe1.fr. Ainsi se termine Mediapolis 2018. Rendez-vous samedi prochain pour Mediapolis 2019. Et en attendant, bon week-end Justine.
Bonne année à tous.
Bonne année Michel, bonne année Olivier. C'était Mediapolis. On vous retrouve en effet la semaine prochaine dès 10h. Alors bien sûr, la journée n'est pas finie. Dans un instant, vous retrouvez la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Bonjour Laurent.
Bonjour Justine. Le réveillon du 31 approche à grands pas. Huîtres, foie gras, saumon fumé. On va vous aider à bien choisir ces classiques de fête. On vous donnera aussi des idées pour réveillonner chic et pas cher. Et puis Justine, écoutez bien, nous recevrons une légende de la cuisine. Michel Guérard sera avec nous pour préparer le réveillon. A tout de suite.
Oh là là, ça tombe bien en plus, j'ai rien prévu pour l'instant. Alors à tout de suite Laurent.